toujours en direct de l'Espace Bonnefoy Festival Figuré et je reçois Marlène et alors Margot qui vont nous présenter d'abord leur travail, structure personnelle et puis après un petit peu ce qu'elles présentent ici sur le festival. Mesdemoiselles, c'est à vous.
Du coup, je suis Margot, je suis graphiste et illustratrice à Toulouse depuis quelques années et je fais donc du graphisme avec mon collectif MMM Collectif. Et à côté, j'ai aussi une pratique de bande dessinée. Je fais de la BD autobiographique depuis quelques années.
Ah, et ben, je crois que ça tombe bien, parce que toi aussi, c'est un peu autobiographique ce que tu fais.
Oui, donc moi, c'est Marlène Cotelette. C'est absolument autobiographique. Je suis plasticienne et éditrice, et auteure également. Et effectivement, je transcende mes problèmes de santé que j'expose dans mes différentes pratiques, que ce soit à l'écrit ou au dessin. Donc c'est autobiographique et très auto-centré. En tout cas, ma pratique personnelle est assez auto-centrée.
Alors, on va y revenir, mais là, pour le coup, vous présentez... alors, toi, tu présentes une table avec une table des copains.
Alors, c'est en fait, j'ai une structure, une maison d'édition qui s'appelle Les Éditions Terriennes. Cette année, je n'ai pas pu sortir le livre que j'espérais à cause de problèmes d'ordinateur. Donc, j'ai fait un stand spécial copains qui réunit tous les gens que j'apprécie et qui avait une sortie de prévue en dessin ou en micro-édition, auto-édition.
Tu peux nous en citer quelques-uns?
Bien sûr, je peux vous citer les éditions Méconium de Bordeaux, tenues de main de maître par Mathieu Desjardins. Nous avons aussi, qui est donc sérigraphe, Nadia Von F, qui est artiste plasticienne et qui a aussi un travail d'écriture et de performance live avec de la musique. Mm-hmm. Il y a également Sophia El Mokhtar, qui est artiste performeuse et auteure, qui a sorti 2 bouquins. Il y a également Cécilia Colombo, qui elle est autrice et également correctrice. Il y a Pierre Sauvage, qui lui est de Lille et de l'Ardente Édition. Il y a Nils Berthaud, qui est de Montpellier. Il y a également Bonella Holloway, qui est artiste plasticienne à Toulouse. Voilà, j'ai à peu près une vingtaine d'artistes sur le centre.
J'ai vu A4 Pudvie aussi.
Alors A4, il est dans les éditions terriennes, dans les zines collectives que nous avons fait, mais je ne l'ai pas lui en son nom propre actuellement.
Ok, et t'es juste à côté de, je crois, David...
De l'ignoble David.
De l'ignoble David, oui, dont on ne citera pas le nom. Et en parlant de collectif, toi, c'est MMM Studio, et alors, ça veut dire, parce qu'il y a plusieurs M...
On est 3, ouais. Du coup, c'est Margot, Marine et Milena. On était aux Beaux-Arts toutes les 3, et on a monté notre studio de graphisme quelques années après les Beaux-Arts. Et on partage, en fait, on a un atelier partagé au Busca à Toulouse avec d'autres copines, on est 6, donc avec Estelle Grossias, qui est aussi graphiste. Fille et illustratrice, Catherine Stabler qui est éditrice de la maison d'édition Biscotto et Manon Rope qui est graphiste, illustratrice et qui a aussi un label de musique, Hidden Bay Records.
Ah oui,
quelques cassettes.
Qu'on avait reçues ici, non?
Peut-être.
Je regarde, interrogé, il me semble que je l'ai déjà eu autour du plateau. Et je vais revenir un petit peu sur votre travail autobiographique. Alors vous me dites évidemment ce que vous voulez de ça, mais en quoi le dessin vous permet de vous exprimer, d'exprimer des choses comme ça sensibles? Je ne sais pas si tu as envie de commencer.
Je trouve qu'il y a un truc aussi assez personnel où on se retrouve assez facilement. Tu es face à ta feuille, tu es face à ce que tu as envie d'exprimer. Il y a quelque chose d'hyper naturel qui se passe, je pense, avec le dessin et qui fait du bien. Et tu te dis, au moins, tu sors ce que tu as à sortir. Et c'est autant, je pense, quelque chose, je ne sais pas si tu penses un peu ça, de cathartique, que aussi quelque chose où... Moi, en tout cas, quand je lis d'autres choses autobiographiques et tout ça, j'aime bien sentir que t'es pas tout seul dans cette situation ou ce genre de choses. Et c'est assez cool, les trucs autobiographiques pour ça, quoi. Ça crée, au final, ça parle de l'individuel, mais ça crée quand même pas mal de notions assez collectives, au final.
T'as ce sentiment-là aussi?
Alors, tout à fait, surtout qu'il est... Le dessin, chez moi, c'est quelque chose d'inhérent à ce que je suis, parce que je suis autiste Asperger. Et j'ai commencé à dessiner avant même de savoir marcher, lire et écrire. Et en fait, j'ai toujours tout fait passer parce que les Asperger, enfin en tout cas moi, on est très vite submergé par l'émotion, quelle que soit l'émotion, qu'elle soit positive ou négative. À une certaine époque, il m'était impossible d'ouvrir un cadeau devant quelqu'un tellement la charge mentale et psychologique était grande. Donc le seul moyen que j'avais pour exprimer ce que je ressentais, c'était de le dessiner. Et donc quand j'ai eu mes problèmes de santé, que j'étais pas capable de les verbaliser, j'ai dessiné mon mal. Et c'est comme ça que les médecins ont compris ce que j'avais. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que, en fait, c'était plus qu'une stratégie d'évitement, c'était mon langage. Donc je dessine tout, je sublime tout, et je me décharge émotionnellement, ce que tu dis cathartique, je me décharge émotionnellement de tout ce trop-plein grâce au dessin, parce que j'en garde un contrôle. Quand on fait un trait, on vous voyez, on est actif, active, et ça évite tout ce qui va être sidération. Mmh. Voilà, donc moi, c'est pour ça que je ne parle que de moi, parce que c'est aussi la seule façon que j'ai, n'ayant pas le même langage que les autres, parce que réellement, neuronalement parlant, ça reste très compliqué chez les autistes, le dessin, ou en tout cas ce qu'on traduit par le dessin, ça parle absolument à tout le monde, et libre à la personne de le prendre ou pas.
Voilà. Et justement, comment vous avez appréhendé le fait de la première fois de montrer ce travail personnel à des publics ? Ça ne doit pas être facile des fois. Enfin, la première fois que vous avez décidé de publier au final ces histoires.
Pour ma part, j'ai monté ma maison d'édition parce que c'est extrêmement rassurant. Okay. Donc j'ai monté mon association, la maison terrienne, ma maison d'édition, les éditions terriennes. Et donc à partir du moment où je suis dans le contrôle de tout, c'est moi qui gère le... Donc ça a été très simple parce que pendant 10 ans, je me suis cachée derrière la maison d'édition, les éditions terriennes. Mmh. Et ça fait que 2-3 ans que Marlène Cotelette, en tant que plasticienne, est là. Mais il m'a fallu ce temps-là et des lieux comme les Pavillons Sauvages qui m'ont toujours accueillie et qui m'ont permis de me former autant musicalement qu'artistiquement. Donc pour moi, ça a été plutôt très simple parce que j'avais l'impression d'être à la maison.
D'accord. Et donc c'était quelque chose d'assez naturel pour toi de faire ça. Parce que du coup, c'était une suite logique.
Oui, puis j'étais toujours très très bien entourée de copains et d'artistes, en fait. Donc, c'était beaucoup plus naturel que d'aller au McDo travailler, par exemple. Non, mais vraiment.
Et toi, comment tu as vécu ce rapport-là, justement, la première fois que tu te dis, bon, voilà, moi j'ai fait ça, ça parle de moi.
Je trouve que c'est pareil, l'auto-édition, en tout cas, pour ma part, de se diriger vers des trucs où tu as une certaine forme de contrôle, où tu te dis, bon, je cherche pas à les éditer ou à montrer, justement, mais juste à finir soit des objets ou... Moi, je postais par exemple beaucoup sur Tumblr. J'ai encore un Tumblr depuis des années et c'est vraiment ce truc-là où c'est juste... C'est fait, c'est posté, c'est posé et c'est aussi une manière de suivre, d'être assez instinctive en fait et de continuer un travail comme ça, autant par l'autopublication, ce genre de choses, mais d'être... d'être aussi dans une forme de prise de décision, etc., de pas avoir trop de règles extérieures et de pouvoir un peu faire ce qu'on veut et j'osais.
Et de pas non plus avoir le retour d'une maison d'édition qui pourrait vous dire ça oui, pourquoi pas, mais ça bof.
Ce qui est un travail super intéressant en soi, enfin, je trouve ça trop cool de bosser vraiment avec des maisons d'édition, etc. Mais voilà, je trouve que l'autopublication permet aussi ce genre de liberté assez agréable.
Et est-ce que le fait aussi d'un moment de publier, c'est une manière de se dire ça c'est fini? Ou est-ce que ça pose un point, quelque chose comme ça est-ce que vous pourriez garder ma question c'est plutôt ça, est-ce que vous pourriez garder ces dessins dans un placard, dans un tiroir en fait, ou est-ce que c'est important à un moment de les montrer?
Ça dépend si c'est ma pratique personnelle dont on parle ou si ce sont les éditions terriennes.
Ta pratique personnelle? Alors, plutôt
dans ma pratique personnelle, publié ou pas, sorti ou pas, ils font partie de ce que je suis. Je me lève le matin, je dessine, je dors. Les autistes, on est très... Il y a une espèce de protocole où la souris, le clavier est d'un côté, parce que je travaille l'ordinateur, une pratique numérique. Et donc, je travaille, je crée en permanence. Et un jour, il y a un déclic, il y a quelque chose qui se met en place. Et soit ça va donner lieu à une exposition, soit à une exposition plus un bouquin, soit quelque chose de collectif, ou même des fois, je vais avoir un projet qui me tient vraiment à cœur, et je vais aussi le proposer à la maison d'édition pour pouvoir m'accompagner, sans que les artistes le sachent, de d'autres artistes, qui vont finalement, par le biais de leur contribution, amener une valeur en plus ajoutée à mon travail. Voilà. Donc, que ce soit publié ou pas, pour moi, ça ne change pas
la démarche.
Non, du tout. Non, je ne travaille pas pour publier, en fait. Je travaille parce que j'aime la rencontre, comme sur mon stand, mêler des gens qui sont de l'art contemporain avec des gens plus DIY, avec des gens qui font de la sculpture. C'est vraiment ça, c'est là où j'ai la connexion, en fait. Et j'ai cette facilité-là à les connecter. Voilà, c'est tout. Après, je me mets en retrait.
Et toi, est-ce que tu as besoin de montrer ce travail-là ou
C'est un peu de mouvement. Je trouve ça hyper important d'avoir des choses qui dorment, en fait, et de les laisser dormir de temps en temps et de pas... ça marche pas, ou alors elles sont pas faites pour donner quelque chose sur l'instant T, et c'est des choses que j'aime beaucoup regarder évoluer, qui vont dans un coin. Enfin, je pense qu'on a tous un peu cette pratique là en fait, de laisser des choses un peu vivre leur vie de côté, et du coup j'essaye de me poser tout le temps la question quand c'est dans ma pratique personnelle vraiment de BD etc, de ah là en fait est-ce que c'est vraiment le moment ou peut-être en fait j'y reviendrai plus tard et
de laisser aussi des petites choses qui dorment comme ça et qu'on reprend plus tard. Et dans vos pratiques collectives, est-ce que vous pourriez un petit peu nous décrire ce que vous faites? Donc là, par exemple, toi, dans les éditions terriennes, qui est-ce qui est publié? Tu l'as peut-être déjà dit. Mais...
Alors, non, je vais le répéter. Alors, le principe de la maison d'édition, c'est de réunir donc, des artistes de tout médium, média, autour d'un thème. Là-bas, c'était du graphzine, pas du fanzine, parce que c'est vraiment il y a plus de dessins, il n'y a pas de fond idéologique non plus, puisque je ne trie pas les contributions. Je vais imposer un thème, par exemple, Frixpulsion, et des couleurs.
Okay.
Voilà. Et il y a vraiment j'ai un rapport à la couleur et au Pantone qui est assez aigu parce que j'aime ça et parce que je travaille l'impression numérique. Il y a peu de gens qui aiment l'impression numérique parce que ça coûte cher et parce qu'il y a une gestion de la couleur qui est particulière. Mais quand on l'a, c'est quelque chose qui peut être très agréable à travailler. Je suis pas sur la RISO, de la sérigraphie. Je suis vraiment impression numérique parce que j'adore l'ordinateur. Et donc je vais envoyer en fait mon appel à contribution via les réseaux sociaux ou via des mails, des listes de mails que j'ai. Les artistes vont me répondre et l'unité va se faire grâce au fait déjà qu'ils ont le même sujet, même si chacun et chacune est libre de l'interpréter à sa façon, mais la couleur va me les ramener ensemble. C'est-à-dire que le livre va être cohérent, va faire corps et ça va fonctionner aussi en exposition parce qu'à chaque fois, il y a une exposition qui est tirée de ce livre. Et cette exposition, jusqu'à présent, elle a toujours eu lieu depuis 10 ans au Pavillon Sauvage.
Et alors, la prochaine, elle aura peut-être lieu
la
aussi
prochaine,
là-bas.
J'attendais en fait que les pavillons sauvages puissent réouvrir. Ils réouvrent tout doucement.
Oui.
Je ne sais pas encore s'ils remettent en place
les
expositions. Mais c'est vrai que je suis très attachée à ce lieu-là qui m'a toujours laissé faire. Et donc, c'est comme ça que je travaille en collectif. Et ensuite, je pense que pour les 10 ans, j'aimerais rassembler les 8 ou 9 graphzines qu'on a fait ensemble et rassembler les. Il y a à peu près 240 artistes qui m'ont quand même fait confiance. Non, c'est super. Surtout que on ne connaissait pas, donc voilà. Et c'est comme ça que je travaille. Et en général, ce qui est fou, c'est qu'on est, énormément dans l'humain, mais c'est par mail qu'on échange, quoi.
Ouais,
on va passer des journées avec des gens qui sont des taiseux ou des taiseuses à échanger des mails, à checker. Et ça arrive que 5 ans après, lors d'un stand, on fait « Ah, mais c'est toi, Marlène Cotelette ?» Et donne-moi ton blaze. Et la personne fait « Ah, mais oui, mais ça fait 10 ans qu'on échange, en fait. » Voilà. Ça, c'est très chouette. Et du coup, ça nous laisse le temps à tout le monde de prendre le temps. C'est chouette.
Tu parlais de taiseux et taiseuses. Tu trouves que est-ce que les dessinateurs sont des gens...
Ah, plus que ça, même.
Ah oui.
Oui. Oui. Après, on peut paraître des fois très à l'aise, mais c'est parce qu'on nous prend au travail. Au travail, on est pro. On est vraiment pro. On sait ce qu'on a à faire. On est caché derrière son stand ou derrière le bar. On sait ce qu'on a à faire. Les gens qui dessinent en général, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé d'autres solutions.
Pour s'exprimer, le choix que tu as fait à un moment, presque une révélation ou une obligation pour toi de dessiner.
Une nécessité.
Ouais. Et je me tourne vers toi, Margot. Donc, le travail collectif, puisque tu es dans un studio collectif.
C'est ça. Bah, du coup, ça fait vraiment, je pense que c'est lié aussi au fait d'avoir une pratique très personnelle. En fait, du coup, ce besoin, les deux besoins, ils vont de pair et je ne pourrais pas travailler que toute seule, par exemple. Et du coup, ça est venu vachement au début par les fanzines. J'ai beaucoup participé à des fanzines de BD, d'illustration, etc. À l'école, quand même, on a l'habitude de commencer à bosser un peu ensemble, etc. Et après, voilà, je fais partie aussi de l'Atelier Téméraire, qui est du coup un gros collectif de graphistes, éditeurs, qui réunit des gens d'un peu partout en France. Donc avec les filles, donc avec MMM Collectif, on travaille à 3, on fait tous nos projets de commandes de graphistes à 3. Et être dans un lieu partagé, enfin voilà, vraiment cette notion-là de travailler à plusieurs, d'échanger, d'être toujours dans un... Ouais, autant en partage du travail qu'en partage d'idées, de soutien, je trouve ça tellement important dans nos métiers, où au final on se retrouve toujours à un moment quand même toute seule ou toute seule, d'avoir des pratiques qui nous connectent, qui nous rassemblent, et des événements comme ça aussi, de se retrouver, il y a vraiment aussi ce truc-là de « Ah, mais c'est toi !» Et ça fait trop du bien, ça, de se retrouver ensemble.
Donc on va en profiter pour remercier l'équipe du Festival Figuré qui amène aussi ces occasions de se rencontrer, parce que sinon j'ai un peu l'impression, des fois en discutant avec vous, qu'en effet on peut vite se retrouver un peu tout seul dans sa bulle en fin de compte. En tant que dessinateur ou graphiste, etc., ben c'est ce rapport, à l'écran, mais aussi à la solitude, parfois, de ces pratiques très personnelles. Ouais. Et donc, vous cassez ça aussi à travers, toi, tu l'as dit, des ouvrages collectifs, toi, en travaillant. Qu'est-ce que vous pensez de cet événement, là, aujourd'hui?
Mais, je le trouve très chouette. Je suis issue à la base du collectif Indélébile, donc ouais. Je sais ce qu'est le festival, j'en ai monté plusieurs. Ensuite, le festival et le collectif a splitté, ça arrive. Donc, je suis plutôt ravie.
Ça arrive au bout de, en plus de plusieurs années, 10 ans, oui, de bons et loyaux services.
Oui, oui, hein. Mais bon, je pense que c'est bien aussi de, à un moment donné, laisser la place à d'autres. Oui. Ils avaient déjà mis en place le Pépite World, leur festival, et c'est la bonne relève, c'est la juste relève. Oui. Un peu différent, un peu orienté différemment, des personnes différentes, c'est oui. Normal. Mais j'y retrouve tout ce que j'avais perdu. Et après, c'est sûr que pour quelqu'un comme moi, qui suis plutôt de la génération d'avant eux, c'est vrai que ça nous amène aussi à nous interroger, parce qu'on voit des nouvelles personnes dont on n'a pas l'habitude. Donc toi, par exemple, je ne t'avais jamais croisé. Et ouais, ça amène à se remettre en question aussi par rapport aux pratiques actuelles. Mm-hmm. Voilà.
Ouais, puis à se re-rencontrer. Enfin, je pense qu'il y a aussi ce truc-là de... S'il n'y a pas des espaces comme ça, enfin même là à Toulouse, en fait, je trouve qu'il y a ce truc-là de se rendre compte qu'en fait, on est plein, qu'on se connaît, mais parfois à moitié, oui. Et qu'on a besoin aussi d'espaces, autant pour partager avec le public que pour partager les uns les unes avec les autres. C'est hyper important, je pense, dans nos pratiques.
Oui. Mm. Donc, merci déjà à vous deux d'être venus nous présenter votre travail. On va juste faire un petit rappel sur où est-ce qu'on peut découvrir votre travail, un site internet, une adresse.
Ah ben, Marlène Cotelette, donc moi je me trouve actuellement, si vous voulez me voir ou voir mon travail, en résidence à Lieu Commun, Artiste Run Space, juste à côté d'ici. Sinon il y a le site internet et les réseaux marlenecotelette.net, et Édition Terrienne, c'est trouvable assez facilement et consultable ou achetable à la librairie en Bolvanche.
Super. Margot.
Et nous du coup, à l'atelier, donc c'est Le Rayon, on publie plutôt sur Facebook, avec MMM Collectif, donc on a notre site. Et après, Margot Criseo sur les réseaux.
Criseo, tu l'écris comment ?
C-R-I-S-E-O.
Bon, je ne t'ai pas demandé à toi, Cotelette, hein, parce que je pense qu'on
bon,
voit
bon.
À peu près.
On est bon.
Merci les filles.
Merci à toi.
Bon festival.
Merci.
Merci.
C'est bon ?
Bon, monsieur.
Non, c'est bon.